Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La Commission nationale électorale indépendante, CENI, a publié le vendredi 24 août dernier, dans la nuit, la liste provisoire de candidats à la présidentielle et aux législatives nationales du 23 décembre 2018. 19 candidatures ont été déclarées recevables pour l'élection présidentielle. Les dossiers de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu et Antoine Gizenga et autres ont été déclarés non recevables. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à ceux qui ont porté de l'intérêt à ce sujet. Vous êtes plus de 3000 à avoir lu et commenté ce sujet depuis le week-end. Pierrot et la Mégie réalise cette émission mise en onde par Jean-Claude Ciala et supervisée par Martin Seboujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios Steve Kivuata, porte-parole d'Adolphe Muzitu. Bonjour Steve.
Bonjour Pierre.
Vous êtes juriste d'entrée de jeu. La CENI n'a fait qu'appliquer la loi.
Non, la CENI est allée au-delà de la loi parce que tout simplement, dans le cas de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, candidat à la présidentielle, la CENI a eu comme motif, a donné comme motif le soi-disant conflit d'intérêts en se basant sur l'article 15 de la loi électorale. Pourtant, l'article 15 de la loi électorale parle de cas où un regroupement politique présenterait deux listes sur une même circonscription électorale. Or, même sans être juriste, il vous souviendra qu'Adolphe Muzitu ne s'est pas présenté ni comme Palou, parti politique, ni comme candidat du Palou allié, qui est les regroupements politiques là où se trouve le Palou. Il s'est présenté comme UREP, qui est un des regroupements politiques qui soutient sa candidature dans le cadre du Nouvel Élan. Donc, il ne s'est pas présenté comme Palou. Donc, quand on voit seulement cet aspect-là, on dit que là, la CENI s'est trompée. Et je ne voudrais pas aller loin pour dire qu'elle a été manipulée ou instrumentalisée. Eh bien, quand on veut aller loin. Nous savions déjà que le bureau politique du Palou était pris en otage par le FCC. Nous savions que ce bureau politique allait tout faire pour empêcher la candidature d'Adolphe Muzitu dans le cadre du Palou. C'est ainsi que lui, il a pris son nouvel élan. Il a pris le nouvel élan en allant effectivement postuler comme indépendant, plutôt comme candidat de l'UREP. Et on a pris la précaution. La loi ne les demande pas. Les éléments du dossier ne demandent pas qu'il y ait la démission de son ancien parti. Parce que lorsqu'on part déjà, lorsqu'on adhère à un autre parti, ça veut dire qu'on a quitté son ancien parti. Mais nous, on a pris la précaution d'introduire parmi les éléments du dossier non demandé par la CENI, hein, premièrement, sa lettre de prise d'acte de la suspension qu'on lui a donnée dans le cadre du Palou, suspension à durée indéterminée, qui voudrait dire que dans l'entretemps, il a perdu sa qualité de militant du Palou. Et deuxièmement, nous avons introduit une démission conformément au statut du parti qui demande à ce que ça soit introduit au niveau de la cellule. Les deux éléments, les deux lettres, faisait partie du dossier du candidat Adolphe Muzitu.
Mais Adolphe Muzitu n'a jamais été révoqué de son parti, il n'a jamais été chassé de son parti, il a été plutôt suspendu du Palou.
Effectivement, nous parlons droit. Nous parlons droit.
Voilà.
Premièrement, comme on a dit, cette sanction était mal donnée. On ne peut pas suspendre quelqu'un qui n'est que militant. On suspend quelqu'un d'une fonction. Alors si on devait retomber sur leur erreur pour dire qu'on peut suspendre un militant, ça veut dire que du moment où on vous a suspendu comme militant, à durée indéterminée, vous n'êtes plus militant de ce parti. C'est la simple logique. Mais on est allé au-delà. Lui-même, il a démissionné du parti en écrivant de manière officielle aux organes habilités. Et ils n'ont pas voulu réceptionner, mais le huissier de justice a notifié tous ces organes. Mais au-delà de ça, nous vous disons que lorsque vous adhérez à un autre parti politique, vous perdez la qualité de militant de votre ancien parti politique. Vous n'avez même plus besoin de démissionner. C'est à votre parti de constater, de tirer les conséquences de votre nouvelle adhésion à une autre formation politique. Ce n'est que le droit le plus élémentaire. Même un étudiant de première année de droit pourrait comprendre cela. Et nous ne comprenons pas comment est-ce que la CENI a pu se tromper à ce point-là.
Voilà. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel que la CENI est allée au-delà de ses missions?
Bien sûr, la CENI est allée au-delà de ses missions.
Parce qu'il y a d'autres, il y a l'ancien Premier ministre, Badibanga, qui dit que la CENI n'avait pas le droit d'interpréter la loi.
La CENI n'avait pas la compétence de dire le droit. La CENI n'est pas une juridiction. Les juridictions sont bien établies et bien énumérées par la loi. Eh bien, la CENI n'en est pas une. La CENI devait se limiter à son rôle, les attributions qui sont limitées, de voir les éléments du dossier, si ils sont dans le dossier ou pas, s'ils sont complets ou pas. Si le dossier est incomplet, c'est en ces moments-là que le dossier sera irrécevable. Mais lorsque le dossier est complet, eh bien, la CENI n'est pas...
Non, mais le traitement des dossiers devait se faire conformément à la loi électorale également.
Effectivement.
Parce qu'il y a des critères pour que les dossiers soient déclarés irrécevables.
Effectivement. Et en cette matière, comme on le dit, la CENI a donné la...
Il y a la question sur la corruption, il y a la nationalité, tous ces aspects.
Effectivement. Pour ne parler que d'Adolphe Muzito, tous les éléments étaient réunis. Et on vous dit même que on est allé au-delà pour introduire même les lettres de démission.
Parce que la CENI n'est pas seulement un bureau de réception, c'est une centrale électorale.
Ben non, mais c'est pas un bureau de réception, mais ça a une compétence bien déterminée. La compétence est d'attribution. La CENI ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui donne comme compétence par la loi. Et en tant que tel, il n'appartient pas à la CENI de juger les conflits au sein du parti politique.
Le fait que la compétence soit d'attribution, la CENI ne devait pas aller outre mesure.
Ne devait pas aller outre mesure. Par exemple, commencer à juger de conflits au sein du parti politique pour dire tel est membre d'un parti politique ou pas. La CENI devait se limiter à voir si tel a été investi par le parti dont il réclame l'appartenance. Et Adolphe Muzito ne s'est pas présenté comme candidat du PALU, il s'est présenté comme candidat de l'UREP, et la CENI ne pouvait pas recevoir une plainte quelconque d'un parti. D'ailleurs, il faut le savoir, le PALU n'a pas présenté de candidat. Le regroupement PALU et Alliés. D'ailleurs, vous verrez que pour la candidature de Gizenga, si ça a été entre autres débouté, c'est parce que c'est le PALU qui a voulu démontrer que Gizenga est leur candidat. Pourtant,
défaut des mandataires, vous les juristes, comment comprenez-vous cela?
Ben oui, c'est tout simplement parce qu'effectivement, aujourd'hui, le PALU ne devait pas présenter de candidat. C'est les regroupements PALU et Alliés qui a des organes bien établis. Mais malheureusement, on ne comprend pas ce qui s'est passe au PALU depuis un certain temps. Vraiment, les gens sont perdus là-bas. Il fallait prendre le nouvel élan.
Voilà, on va revenir à vous. Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour finalement rentrer dans votre droit, le droit, allais-je dire, d'Adolphe Muzito? Mais nous rappelons qu'il y a 6 candidatures qui ont été déclarées irrécevables, entre autres celles de Jean-Pierre Bemba, Jean-Paul Moka, Antoine Gizenga, Adolphe Muzito, Madame Ikofo, si je n'ai pas massacré ce nom, et Sami Badi Banga, ancien Premier ministre. Arsène, vous êtes à Kikwit et Simon Amatadi, vous gardez la ligne. Il est temps d'abord d'accueillir Martin Fayoulou, qui est un des candidats qui a été aussi, dont le dossier a été déclaré recevable. On va l'écouter d'un moment à l'autre, mais tout en vous rappelant que vous pouvez aussi participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connu et ses citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration, Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Merci d'écouter Radio Okapi. Nous entamons le deuxième quart d'heure de cette émission Parole aux auditeurs. Qui vous accorde la parole? Arsène, gardez la ligne et en même temps Simon. Martin Fayoulou, vous êtes le président de l'ESID avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre candidature a été déclarée recevable. Mais entre-temps, la plupart de vos collègues de l'opposition qui se trouvent aujourd'hui devant un fait accompli, c'est-à-dire ils doivent aller en justice pour réclamer de rentrer dans leurs droits, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez l'impression que la CENI n'a fait qu'appliquer la loi?
Non, la CENI, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et celle de savoir qu'est-ce qui reste encore d'indépendant à la CENI. La CENI n'est pas indépendante. La CENI est totalement instrumentalisée. Je ne comprends pas qu'on traite les dossiers pas par rapport à la règle, mais par rapport aux individus. Mais il y a un dossier, il y a un cas dont on ne parle pas beaucoup. C'est le cas des Ramazani, candidats indépendants. Mais M. Ramazani, tout le monde sait qu'il est secrétaire permanent du PPRD, membre d'un groupe politique, on le sait. Mais il s'est présenté en indépendant comment? Et pourquoi on ne l'a pas invalidé comme on a invalidé Mozito? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Il est membre d'un parti, secrétaire. Alors les gens qui sont partis l'accompagner comme témoins, ils sont qui? Ils sont aussi indépendants comme lui? Où ils sont fonctionnaires de l'État, où ils travaillent pour l'État congolais.
Donc, la question... Oui, pour ne pas vous couper la parole, Monsieur Martin Fayoulou, nous avons vu, même sur la liste de la députation nationale, certains ministres, membres du FCC, dont les dossiers ont été déclarés irrécevables. Je prends les cas de Memas, l'actuel ministre de l'Emploi, pour ne pas les citer.
Non, mais nous sommes d'accord. Mais pourquoi traiter les cas d'une façon... parcellaire. Pourquoi ne pas mettre la règle avant et que tout le monde doit entrer dans cette règle-là? Les cas, c'est pour ça que j'insiste. Moi, je ne veux pas qu'on envoie simplement les dossiers
à la Cour constitutionnelle,
les membres de l'opposition, mais il faut revenir parce que sinon on va nous envoyer ailleurs et là où les choses se font réellement, nous ne voulons pas regarder. Monsieur Nanga et la CENI sont instrumentalisés. La CENI n'est pas indépendante. La CENI est au service de M. Kabila. Donc, ces élections-là, est-ce qu'on peut s'attendre au 23 décembre 2018 aux élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées? Je dis non, parce que M. Kabila a déjà avancé beaucoup de choses. Un, il a mis le seuil. Et le seuil est passé, personne n'a regardé. Deux, il a mis la caution. La caution, nous avons un vote censitaire, vote des riches. Trois, il a mis la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est passée et là, il y a des gens à lui qui sont là, qui attendent. Quatre, la décrispation. Il ne parle pas de la décrispation. Katumbi n'est pas revenu. Diomi n'est pas sorti de la prison. Comment il s'appelle les autres. Franck Diongo n'est pas sorti non plus. Anzoulou n'est pas revenu. Et beaucoup de gens, Mouyambo et même. Donc, la décrispation.
Donc, si je comprends bien, pour vous, déjà là, vous relancez les débats sur l'inclusivité. Voilà, on va revenir à vous peut-être dans une autre émission très longue, Martin Fayoulou, parce que ça risquerait de nous prendre un peu
disons. Je vais terminer, je relance les débats sur la crédibilité de la CENI. La CENI ne peut pas continuer comme ça et tout le peuple congolais doit se dresser comme un seul homme pour dire à M. Nanga, non, on ne peut pas accepter son dictat. Il est l'invalé de quelqu'un, et c'est quelqu'un qui lui donne des instructions, et il vient imposer ça aux Congolais.
Merci
ça,
beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Martin Fayoulou, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour aux électeurs de la ville de Kikwit et du Bandundu en particulier et du Congo en général.
Voilà. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que la CENI n'a fait qu'appliquer la loi aujourd'hui avec les 6 candidatures qui ont été déclarées irrécevables?
Ok, merci.
Qui devraient se tourner vers la Cour constitutionnelle, en fait.
Merci beaucoup. Moi, je vais plutôt aborder, pas tellement dans le sens juridique, parce qu'il y a un juriste déjà là qui va bien expliquer la situation. Moi, je vais plutôt aborder dans le sens communautaire et dans le sens politique. Vous savez, dans notre pays, le ridicule est devenu comme la monnaie courante. Ici, chez nous, il y a une expression qu'on appelle vulgairement « Boulambinda, Nzalama Tombe, Yamukwata », qui veut dire ceci. Vous avez votre calebasse avec votre vin, et vous cassez la calebasse, et après, vous avez soif. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de s'acharner sur des candidats de grande valeur. Je veux couper court. La CENI doit savoir une chose. C'est le Bandundu qu'on a cru divisé. Le Bandundu, aujourd'hui, fait bloc, un seul bloc. Nous aurons un seul candidat qui va négocier avec d'autres communautés, d'autres provinces. Vous devez le savoir. En second lieu, je vais dire ceci. C'est tellement ridicule qu'on puisse nous présenter les cas actuels. On ne peut même pas faire un débat là-dessus, JR. On ne peut pas faire un débat. Et pourquoi ne pas faire un débat? Parce que c'est tellement ridicule, tellement de la politique de la haute bassesse, que moi, Arsène, je ne parviens même pas à me retrouver. Je ne parviens même pas à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la ville de Kikwit, derrière son élu, qui est Mouzito, la province de Bandundu, derrière son élu, qui est Mouzito.
Ben, nous ne sommes pas encore en campagne, Arsène, nous ne sommes pas encore en campagne, même pas
non,
après campagne.
Ce n'est pas la campagne.
Oui, ce n'est pas la campagne. Mais moi, je vous ai posé la question, est-ce que la loi a été appliquée? Parce qu'en tenant compte des critères, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un conflit au niveau de Palou? Parce que c'est ce qui a été évoqué comme motivation.
Ok, le Palou, qu'est-ce que signifie le Palou aujourd'hui? Le Palou que vous parlez là, c'est dans la paperasse. Le Palou existe dans nos têtes. Le Palou, c'est notre valeur, c'est notre fierté dans le Puy-Lou, face aux Congolais. C'est notre fierté. Je ne suis pas du Palou, ça je vous l'ai dit. Je ne suis pas du Palou, mais c'est notre fierté. Nous allons défendre le Palou qui se trouve dans nos têtes.
Merci
nous
beaucoup.
Nous le défendrons à corps et à cri.
Merci beaucoup Arsène. Alors Simon Tsiloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour et merci beaucoup. Pour ne pas trop gagner le temps, je salue les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Au fait, je vais m'efforcer d'être un peu impartial. Parce que nous pensons que la CENI qui est un instrument de valeur, un instrument qui joue le rôle d'arbitre, un instrument d'une indépendance qui devrait se remarquer même dans ses actes qu'il pose, est en train d'essayer d'aller à côté. Quand bien même que les décisions prises par elle, l'invalidation, si ces gens ont violé ou sinon ils ont commis des infractions, c'est normal que la CENI puisse prendre cette décision. Et moi, je suis satisfait de la décision. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est où? Lorsque la CENI invalide les uns et les autres qui sont dans la même situation les laissent, la CENI ferait mieux d'envoyer même Chadari aussi à la Cour constitutionnelle. Parce que l'invalidation n'est pas encore totale, il y a encore la Cour qui doit décider. J'en veux pour preuve les évidences. Le cas de Jean-Pierre Bemba, il a été invalidé pour subornation des témoins. Même si la loi parle de la corruption chez nous, et que la loi électorale parle de la corruption, et qu'ici il y a subornation des témoins. Même s'il y a ça. Mais comment on doit invalider Jean-Pierre Bemba, qui est de l'opposition? Mais Maître Kilolo, qui a été aussi condamné pour les mêmes faits, et sa candidature est validée à la députation. Vous prenez, par exemple, Ramazan Chadari, le candidat Ramazan Chadari. Il a été validé en qualité d'indépendant, mais retenu à la députation nationale sur la liste du PPRD, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Vous prenez le cas de Badibanga. Invalidé à la présidence pour double nationalité, mais retenu à la députation nationale. Vous prenez le cas d'Adolphe Mouzito, invalidé pour disconvenance avec sa famille politique, alors que parmi les 25 candidats, il y a les candidats, beaucoup de candidats de la majorité et pro-majorité, il y a des candidats aussi de l'opposition et pro-l'opposition. Le cas de la candidature de Moussita a été invalidée pour disconvenance avec sa famille politique.
Vous parlez de conflit d'intérêts.
Alors que Kinké Moulumba et sa candidature est gardée, alors que Kinké aussi est en disconvenance avec sa famille politique. Oui. Vous prenez le cas de, par exemple, pour terminer, le cas de Jean-Pierre Bemba. Il a été invalidé à cause de la justice internationale. Ramazan Shadari a des problèmes avec la communauté internationale. Et celui-là, on le laisse.
Non, mais pas avec la justice.
Le poids des conflits de Mozito, par exemple, son parti politique, les conflits de Mozito. Mais Shadari, son parti, lorsque Shadari est validé, mais il a les mêmes problèmes avec Kizenga, puisque le quoi était signé par Kizenga, la signature. Et aussi Shadari, c'était le directeur de cabinet du président de la République qui était là. Pour moi, la CENI ferait mieux de prendre tous ces gens, qu'ils soient de la majorité, poids lourd de la majorité ou quoi, il envoie. À la cour constitutionnelle.
Voilà, merci beaucoup.
Qui a qualité valider ou d'invalider au lieu de nous laisser dans cet agrobrio qui prouve sa partialité totale et appartenance à un candidat.
Merci beaucoup, Simon. Alors, Steve Kivuata, réaction d'abord, parce que là, finalement, on a l'impression que pour les cas d'Adolphe Mouzitou, ça risque de diviser quand même les grands bandoudous.
Non, moi je pense que les débats...
Parce que déjà les réactions qui s'en sont suivies, nous avons vu les partisans de Palou aller saccager les sièges même de Palou sur place. Mais c'est quand même rocambolesque. Des gens qui devaient aller et se plaindre ailleurs, mais ils vont saccager le même siège.
Ben, et je pense que c'est d'un côté les bureaux politiques du Palou et de l'autre côté le FCC avec le président de la République qui doivent comprendre qu'ils sont en train de chercher de mettre le pays à feu et à sang de la manière la plus inacceptable possible. Aujourd'hui, le président de la République a semblé montrer sa bonne foi en désignant son dauphin, même si dans un pays démocratique, on ne désigne pas de dauphin, on le choisit à travers un congrès ou à travers de primaires. Il ne pouvait pas, effectivement, chercher à ce que son dauphin soit élu tout en écartant les meilleurs. Aujourd'hui, les élections, nous dépensons plus $1 milliard pour le faire, pour les organiser. Le président Martin Fayoulou parlait de la crédibilité de la CENI qui pose problème aujourd'hui, mais moi j'irai plus loin pour parler de la crédibilité des élections. Eh bien, il a démontré que c'est à partir de la loi électorale qu'on cherchait déjà à écarter les meilleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'être élu parce que, tout simplement, on écarte les meilleurs par la ruse, par l'argent. Soi-même, on réussit à passer. On doit chercher à être fort dans le peuple, à travers les idées. Mais malheureusement, le FCC...
Mais c'est ce jugement... De quoi tient votre jugement? Sur quoi, donc, en fait, tient votre jugement aujourd'hui, quand vous parlez des grosses légumes qui ont été écartés? Et qui vous dit que ceux qui sont restés ne représentent rien?
Non, je ne dis pas ceux qui sont restés ne représentent rien. Mais au moins, c'est évident que ceux qui ont été écartés représentent beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la force intellectuelle et la force populaire d'Adolphe Mouzito. On ne peut pas ignorer la capacité intellectuelle de Jean-Pierre Bemba et même ce que pourrait apporter l'ancien Premier ministre Badibanga. Ce sont de poids lourds et j'ai la nette impression que d'autres poids lourds risqueront d'être écartés à travers la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous critiquons cet aspect parce que nous ne voulons pas qu'après qu'on ait dépensé plus $1 milliard, que par après qu'on retourne aux élections contestées et qu'on aille encore vers une autre transition. Pendant qu'on aura dépensé les $1 milliard, on risquera de faire 5 ans sans organiser d'autres élections. Et les cas de Mouzito, c'est les cas le plus patent pour démontrer que réellement, les institutions de la République donne l'impression d'être manipulé par un camp de pouvoir. On vous a clairement démontré que l'article 15, il faut qu'on lise cette loi. L'article 15 ne parle que de la situation où un parti politique ou un regroupement politique présente 2 listes dans une même circonscription. Et la CENI, là où effectivement on peut dire que les ridicules ne tuent pas, la CENI a fait une publication où on montre que Mouzito est candidat de l'UREP. Et Antoine Kizenga candidats du regroupement PALU et Alliés. C'est deux regroupements différents, deux listes différentes. Déjà rien que par ça, on ne pouvait pas aller au-delà. Et on ne pouvait même pas aller voir s'il y a une lettre de démission ou pas. Mais on vous dit qu'on a tellement été prudents qu'on leur a déjà donné nos lettres de démission pour leur dire, sachez-le, au-delà du fait que nous ne faisons plus partie du PALU, regardez bien dans nos dossiers, il y a nos lettres de démission. En parfaite conformité avec nos textes. Donc, la CENI ne pouvait pas s'établir comme étant une juridiction de parti politique. La loi sur les partis politiques ne donne pas la compétence à la CENI de traiter des conflits au sein de partis politiques.
Voilà, on va écouter Colette Bachmann qui suit de près l'actualité en RDC. Madame Colette, vous êtes avec nous, bonjour.
Non, ils vont revenir.
Voilà, bonjour Madame Colette.
Oui.
Madame Colette Bachmann, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous suivez de près l'actualité de la RDC depuis Bruxelles. Vous êtes avec nous. La liste provisoire de candidats à la présidentielle 2018 a été publiée. 6 candidatures ont été déclarées irrécevables, notamment celle de Jean-Pierre Bemba, Antoine Gizenga, Jean-Paul Moka et Sami Badibanga, ainsi que Adolphe Mouzitou. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Et pensez-vous que... D'abord, première question, quel est l'effet que cela a eu dans l'opinion internationale?
On a suivi ça, hein. Vous savez, l'opinion internationale est au balcon. Pour le moment, c'est une affaire entre Congolais, puisque de toute façon, les candidats qui ont été écartés doivent encore déposer des recours, et je n'ai pas encore vu beaucoup de réactions à ce sujet.
Alors, ceux qui pensent que c'est une provocation de la part de la CENI qui n'avait pas compétence de pouvoir dire les droits à ce niveau.
Mais non, la CENI a le pouvoir de valider ou d'invalider les candidatures, et les candidats qui ont été invalidés vont déposer un recours, et c'est après que les choses sérieuses vont commencer. Ceci est une espèce de ronde d'approche, si vous voulez. Mais il y a une chose qui déjà manque dans ces élections, là je rejoins un peu l'intervenant précédent, ce qui manque c'est la confiance. C'est qu'on n'a pas confiance dans le verdict de la CENI, on n'a pas confiance dans le verdict éventuel de la Cour constitutionnelle. Et là, ces élections vont coûter cher, mais si la confiance manque, elles vont être frappées de suspicion dès le départ, et c'est ça qui est assez regrettable.
Alors, c'est ce qui fait parler encore l'actualité, c'est cette, disons, pas démission, mais la dame qui représente le MLC, dans cette plénière de la CENI avant la prise de cette décision avec laquelle elle apporte, est-ce que vous estimez que cela pouvait aussi entamer quand même la crédibilité de cette institution en cette phase de processus?
Oui, il y a beaucoup de points qui sont litigieux dans le chef des partis politiques, dans le chef du pouvoir. Et je comprends que par souverainisme, le pouvoir écarte les observateurs étrangers ou les experts. Le problème, c'est que des experts étrangers pourraient apporter davantage de crédibilité ou un sentiment de plus d'objectivité au verdict de la CENI. C'est là que se trouve le principal problème, quoi.
Alors, le fait d'écarter le 6 candidatures, donc, je disais, des gros poissons, comme certains ou les médias le disent, que cela entamera l'inclusivité même de ce processus?
Mais oui, parce que si des personnes qui sont très représentatives, dont on sait qu'elles ont de l'audience, sont écartées au départ, moi je dis, le vieux proverbe qui s'applique, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc à vaincre sans adversaire de poids, ben, le triomphe du vainqueur, quel qu'il soit, sera entaché, sa crédibilité sera entachée. Et donc de mauvaises élections, pour moi c'est presque encore pire que pas d'élection du tout.
Merci beaucoup Madame Colette Bachmann d'avoir intervenu, d'avoir accepté d'intervenir donc dans cette émission, parole aux auditeurs depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Alors on revient à vous, Steve. Voilà. Quelle est votre réaction?
Non, mais d'ailleurs, elle a sorti la phrase que nous disons d'habitude, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Effectivement, le FCC veut vaincre sans péril. Ça a déjà commencé par la loi électorale, où il y avait de la discrimination par rapport à l'argent. Il vous souviendra que quand on vote par rapport au système électoral au niveau de la députation, les votes sont comptabilisés par rapport à la liste. Et avant, on payait la caution par liste. Mais dans l'actuelle loi électorale, on a fait commencer à payer à chaque député sa caution. et à la hauteur de 1000 dollars pour la députation nationale. Déjà, ça, c'était le stratagème en dehors du seuil pour arriver à éliminer les autres, non pas par dans le peuple, mais à les éliminer par d'autres stratagèmes, par la ruse, par l'argent, etc., etc. Et aujourd'hui, on semble vouloir éliminer les gens par les institutions établies. Et c'est ça qui est inacceptable. On arrive même à biaiser la loi, à biaiser le droit. Et finalement, je pense que les facultés de droit risqueront de ne plus être importantes dans notre pays. Parce qu'on crée de droit, je ne sais pas, de droit à la congolaise.
En français, on dit, ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Adolphe Mouzi, tu avais présenté trois scénarios, si ma mémoire est très bonne, dans l'une de ces tribunes. Mm-hmm. Et l'annonçait déjà ce qui y est arrivé aujourd'hui.
Effectivement.
Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, il était prophète?
Ben, comme d'habitude, il y a beaucoup de Congolais qui l'appellent le prophète politique congolais, parce qu'effectivement, on connaît les Congolais, il connaît le pays, il sait comment ça fonctionne. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui est en jeu, c'est pas la personne d'Adolphe Mouzito, moins encore la personne de Jean-Pierre Bemba ou des autres, mais aujourd'hui, c'est la question de la crédibilité des élections. Cet argent qu'on cherche au Congo, qu'on n'en a pas trouvé depuis 2016, il a fallu reporter les élections par deux reprises. Accepterions-nous 2 ans après d'avoir des élections bâclées? Des élections qui ne seront pas crédibles, qui vont amener à des contestations et par rapport à une autre transition. C'est ça la question qui est en jeu. La question de la crédibilité.
Donc il y a nécessité d'un troisième dialogue. Parce qu'il parlait déjà d'un dialogue.
Il y a nécessité d'un troisième dialogue, à la limite aussi d'une transition citoyenne. Pour qu'on arrive quand même à recadrer les choses. Parce que, effectivement, si nous allons...
Un troisième dialogue qui appellerait la transition citoyenne, comme vous voulez dire.
Si nous allons de cette manière, ça veut dire qu'on ouvre le boulevard au candidat du FCC qui n'a même pas besoin de vendre une offre politique. D'ailleurs, nous attendons jusqu'aujourd'hui le programme du candidat du FCC qui ne sera pas intéressant, ça sera un slogan. Au lieu d'être un vrai programme, une vraie offre politique, d'ailleurs, de toutes les façons, ils n'ont pas besoin de convaincre le peuple. Ils ont juste besoin d'écarter les autres pour être le seul dans la course. Et je pense que le FCC voudrait même avoir le seul candidat face à zéro. Et on votera par rapport à la carte jaune et verte. On reviendra comme à la Deuxième République. C'est ça qui est inacceptable. Aujourd'hui, on doit laisser les institutions de la République être indépendantes et faire les choses conformément aux droits et non pas être manipulé. Et encore une fois de plus, on vous dit que le cas d'Adolphe Mouzito, c'est le cas le plus patent qui nous démontre que nos institutions ne sont pas libres, elles ne sont pas indépendantes. Parce que aujourd'hui, Adolphe Mouzito, dans le texte, comme l'a dit Madame collègue Bartman, je lui dirais tout simplement que la compétence de la CENI est liée et limitée. La CENI devait voir qu'il y a un document d'investiture d'un candidat à la présidentielle dans le regroupement politique et UREP. Et l'autre a un document d'investiture d'un regroupement politique qui s'appelle Palou et Allié. Donc on ne peut pas aller au-delà de ces documents pour dire que quelque part ils existeraient et il existerait un lien entre eux et qu'il y aurait conflit d'intérêts. Donc,
mais déjà ce week-end, il y a eu appel à la mobilisation au niveau de l'opposition pour que les démarches soient faites de manière un peu soutenue par les uns et les autres. De quoi était-il question, si vous pouvez peut-être éclairer la lanterne des uns et des autres?
Non, nous sentions déjà nos institutions allaient être instrumentalisées et qu'un certain nombre de candidats allaient être écartés. Et c'est comme ça que nous interpellions le pouvoir en place, mais aussi la communauté internationale, dans le sens que la crédibilité des élections commence à poser réellement problème. Parce que nous ne voyons pas, comme je l'ai dit ici, à travers la candidature d'Adolphe Mouzito, qu'il soit réhabilité ou pas demain, nous commençons effectivement à craindre sur la crédibilité des élections et connaissant la faiblesse sur le plan financier de notre pays, un pays qui n'a qu'un budget de 4 milliards de dollars, sur papier, probablement nous mobilisons que 3 milliards, dont les 1 tiers on l'utilise pour l'organisation des élections, on ne voudrait pas le jeter à l'eau. D'où nous interpellons aujourd'hui sur la nécessité d'accompagner la communauté internationale et la communauté internationale, donc le peuple, la communauté nationale.
Voilà, je voulais d'ailleurs poser cette question.
D'accompagner
parce que vous
les élections pour qu'elles soient réellement crédibles, démocratiques, transparentes, mais aussi inclusives.
Vous l'avez dit d'ailleurs juste après la publication de cette liste, que vous allez utiliser tous les moyens juridiques et ainsi que des moyens politiques. Qu'entendez-vous par moyens politiques?
Eh bien, par moyen politique, nous attendons effectivement de mettre la question auprès de l'opinion nationale, le peuple congolais, qui est le premier bénéficiaire, mais aussi le premier acteur de ces élections. C'est lui le souverain primaire. Il ne faut pas, premièrement, qu'on commence à priver au peuple congolais le choix des différentes offres politiques qui peuvent lui être proposées par le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire le meilleur citoyen d'entre eux, quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, quelqu'un comme Adolphe Mujito. Il a une offre politique qu'il peut proposer tenant compte de problèmes du pays. Ils connaissent le dossier. Et deuxièmement, c'est la communauté internationale. Au niveau de la sous-région a tapé du poing sur la table pour dire nous avons besoin de la stabilité au niveau de la sous-région. Et tant que la RDC est instable, nous on ne pourra pas être stable. Moins sur le plan sécuritaire, moins encore sur le plan économique. L'Afrique a tapé du poing sur la table. La communauté internationale, les Occidentaux ont tapé du poing sur la table parce que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Le FMI, etc., etc. Donc, le moyen politique voudrait effectivement que nous, acteurs politiques, qui sommes préjudiciés par le pouvoir en place, qui ne veut pas que les institutions de la République soient indépendantes, eh bien, que la communauté internationale et la communauté nationale, le peuple congolais.
Voilà, on va continuer à dire les droits.
Des élections crédibles.
On va continuer à interpréter un peu l'article 15 de la loi électorale. Maître Coco nous a rejoint à ce niveau du débat. Maître Coco, vous avez appelé de Kinshasa. Bonjour, Maître Coco.
Bonjour, Gilles. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les amis de Radio Okapi.
Voilà, l'article 15 de la loi électorale dit exactement quoi? Comment les comprenez-vous?
Merci beaucoup, Gilles, par rapport à l'article 15 de la loi électorale. Cet article, je vais donner l'économie générale sans entrer dans tous les détails. Mais cet article dit qu'un regroupement politique ou un candidat ne peut présenter qu'une seule liste ou une seule candidature selon le cas dans une circonscription électorale. Dans les cas sous examen concernant particulièrement M. Adolphe Mujito. Donc, la question qu'on peut poser à la CENI, c'est de nous dire quel est le nom du regroupement qui a déposé la candidature de Mujito et la candidature de Kizenga. À ce moment-là, l'opinion comprendra qu'il s'agit d'un regroupement qui a déposé des candidatures sur une même circonscription. Dans les cas, vous allez voir que tel n'est pas le cas et l'on ne peut même pas parler de conflits d'intérêts comme prétend la CENI aujourd'hui. Ce qui est regrettable, ce qui est dommage, c'est quoi? Avant que ceci n'arrive, l'opinion a toujours dit que la CENI est inféodée à la majorité présidentielle. Et la CENI vient d'apporter la preuve. Vous vous souviendrez que c'était le porte-parole de la majorité qui était le premier à soulever la question de Jean-Pierre Bemba par rapport à la subornation des témoins. Aujourd'hui, la CENI emboîte le pas, mais ce malheureux, parce que la CENI confond deux infractions différentes.
Mais vous qui êtes spécialiste, vous qui êtes spécialiste en droit international, oui, en relation internationale,
l'infraction de subornation des témoins et le code pénal congolais prévoit aussi l'infraction de corruption. Deux infractions différentes. La loi électorale, en son article 10, ne parle pas de subornation des témoins. L'article 10 parle de la corruption. Jean-Pierre Bemba n'est pas dans la corruption. Donc, en droit pénal, on ne peut pas faire l'analogie. Donc, vraiment, la CENI est descendue trop bas. Concernant Sami Badibang, là encore, c'est grave parce que ça peut susciter d'autres questions.
Oui, mais ce débat, nous l'avons prévu pour mercredi sur la double nationalité, où nous allons, aborder tous les aspects, notamment la liste que détient aujourd'hui la CENI. Où l'a-t-on obtenue, et qui a transmis, et pourquoi on a gardé cette liste secrète jusqu'avant la publication de la liste provisoire? Pourquoi ne pas informer toute l'opinion nationale et internationale de ceux qui détiennent une double nationalité? C'est un débat que nous allons relancer à partir de mercredi ou jeudi, Maître Coco.
D'accord, je suis d'accord avec vous, Gilles, mais la liste d'emblée, nous pouvons dire que c'est la liste qui a été émise par la DGM. Vous vous souviendrez que
cette liste DGM avait déjà annoncé une démarche.
Et c'est cette même liste-là et nous regrettons que cette liste soit utilisée de manière sélective.
Merci beaucoup, Maître Coco. Alors, on va prendre Valérie qui est à Kinshasa. Valérie, bonjour.
Bonjour, je rappelle que je ne suis pas à Kinshasa, je suis en Bougival.
Vous avez la parole, Valérie. Quelle est votre contribution? Est-ce que vous pensez que la CENI n'a fait qu'appliquer la loi?
Non, elle n'a pas appliqué la loi. Si elle a appliqué un principe, voici le principe qu'elle a appliqué. Vous avez mangé avec nous, vous devez vous taire. Sinon, on vous débarque. C'est ça le principe que la CENI a appliqué. Elle a débarqué ceux qui ont mangé avec elle. Donc la majorité, disons ceux qui ont mangé avec la majorité, ce sont ceux-là à qui la majorité a réglé plus les comptes pour avoir changé de camp. Donc c'est ça le principe que la CENI, qui est certainement inféodée parce qu'elle l'éprouve elle-même, donc a dû mettre en œuvre. Je suis tout à fait d'accord avec le président Fayoulou lorsqu'il dit que la crédibilité de la CENI est fortement entamée. Même si M. Steve Kivata a dit que lui va un peu plus loin, ce n'est pas la crédibilité de la CENI, ce sont les élections. Mais moi, je pense que Martin Fayoulou a tout dit, parce que la CENI est là pour les élections. Donc, si sa crédibilité est entamée, cela signifie que Martin Fayoulou voulait dire que la crédibilité des élections est aussi entamée. Moi, je pense que la CENI doit recadrer sa façon de voir les choses, parce que la crédibilité des élections est d'une nécessité qui n'est plus à démontrer à plusieurs niveaux. Le tout premier niveau de la crédibilité des élections, c'est quoi? C'est que le peuple entier sera dirigé par celui en qui il a remis la confiance, et celui-là aussi à qui l'on a fait confiance se sentira redevable vis-à-vis de la population. C'est cette réversibilité de confiance qui est le tout premier élément moteur que nous gagnons dans la crédibilité. Or, en allant de cette manière, nous perdons même cela. Le pouvoir sera contesté et le pouvoir aussi ne se sentira pas redevable vis-à-vis des peuples, parce que celui qui sera président saura de quelle manière il est devenu président. C'est de toutes les façons qui n'est pas par les peuples. Deuxième niveau de crédibilité. Les investisseurs, la communauté internationale, ils se remettront au gouvernement parce qu'on se dira comme ce gouvernement est celui qui est l'émanation du peuple. Donc, il y aura stabilité, et voilà de quelle manière les investisseurs peuvent aussi approcher les pays. Troisièmement, il y aura, du fait de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, une saine collaboration qui nous permettra d'asseoir l'architecture de la République à venir. Alors, vous comprenez qu'avec tous ces éléments,
alors, vous pouvez citer, alors.
Est en train de nous faire rater l'occasion de rebâtir le Congo.
Merci beaucoup, Valérie. Alors, on va prendre Trésor qui est à Kinshasa. Trésor, bonjour.
Bonjour, c'est Maître Trésor Likonza.
Quelle est votre réaction?
Bien, merci. Je salue mon ami honorable Maître Steve Kivata. J'apprécie l'intervention de Martin Fayoulou et de Maître Okoko sur la situation d'Adolphe Muzito et même de Jean-Pierre Bemba. Mais moi, j'ajoute tout simplement quelque chose de pertinent en disant que la CENI vient de commettre une erreur grossière des droits. Elle a tenté d'interpréter les droits, mais elle n'a pas abouti à un résultat escompté. Et si ses membres étaient des juges, ils seraient tous poursuivis pour la prise à partie, parce qu'ils viennent de commettre les dols. Donc, ils n'ont pas pu toucher aux droits, mais ils sont à côté. Alors, on a déjà parlé des subornations, des témoins de corruption par rapport au code pénal. Mais moi, je vais dire que si par extravagance ou par ignorance, nous acceptions que la subornation est synonyme de corruption, alors là, nous allons revenir sur l'article 10 de la loi électorale qui parle de la décision judiciaire irrévocable. Qu'est-ce que cela veut dire, irrévocable, décision judiciaire irrévocable? Ça veut dire que celui qui est condamné n'a plus droit à une quelconque voie de recours. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est au courant que Jean-Pierre Bemba est en appel contre la décision judiciaire le condamnant pour subornation des témoins. Donc, même si la CENI veut que la subornation des témoins demeure synonyme de corruption, la décision judiciaire qui condamne Jean-Pierre Bemba n'est pas irrévocable, puisque Jean-Pierre Bemba est en appel. Donc là,
quand on parle de conflit d'intérêts pour le cas d'Adolphe Muzito, comment comprenez-vous cela?
Conflit d'intérêts, ça fait rire, parce que déjà, il y a des autres candidats où il y a conflit d'intérêts. Trifon Kiké Moulumba et les dauphins Emmanuel Chadar, tous sont du Front commun pour le Congo.
Voilà, donc nous ne sommes pas des juristes, nous laissons peut-être l'interprétation à la Cour constitutionnelle qui nous en donnera peut-être la requête ou les jugements dans les 7 jours après les 48 heures de recours. Merci beaucoup, Trésor. Alors, réaction, donc il faut attendre quand les 7 jours vont s'épuiser, la Cour va se prononcer, il y aura un jugement. Au cas où ni Jean-Pierre Bemba, ni Adolphe Mouzitou, ni Antoine Gizenga, ni les autres ne revenaient à la course, je crois que il ne restera qu'un seul moyen pour vous, c'est les moyens politiques que vous devez utiliser.
Effectivement, mais je voudrais rapidement revenir sur le propos d'un camarade qui a voulu ne pas sentir la pertinence de la différence entre la crédibilité de la CENI et la crédibilité des élections. Hein. J'ai appuyé l'idée du président Martin Fayoulou qui a critiqué, qui a parlé du manque de crédibilité de la CENI. Moi, je dis, j'irai plus loin pour parler du manque de crédibilité des élections. Au fait, la différence, c'est que si on pose le problème de la crédibilité de la CENI, on peut penser que la solution, c'est la recomposition de la CENI. Or, nous ne disons que ce n'est plus ça. Aujourd'hui, si le pouvoir peut instrumentaliser la CENI, alors, pour que les élections ne soient pas crédibles, il y a d'autres institutions que le pouvoir peut instrumentaliser, même sur le plan sécuritaire. Parce que si on peut instrumentaliser l'organe technique des élections, on peut instrumentaliser aussi le service des sécurités qui ont comme compétence de sécuriser les élections, qui peuvent être utilisées pour un camp au lieu d'être impartial. Donc, il y a cette question de crédibilité des élections doit être mise sur la table pour qu'on en trouve une solution au-delà de la CENI.
Alors, c'est là qu'il y a un auditeur là qui a commenté ou qui continue à interagir sur notre page Facebook qui aimerait bien savoir pourquoi Adolphe Mouzitou, par exemple, n'a pas démissionné de son palou bien avant parce que c'était la deuxième fois qu'il soit suspendu de ses partis.
Non, mais
ça lui aurait évité ses crashs.
Non, d'abord, il n'y a pas question d'avant ou d'après. Il a démissionné au moment opportun. Mais il faut quand même savoir que Adolphe Mouzitou a adhéré au palou dans les années 90. C'est quelqu'un qui a cheminé avec le patriarche Antoine Gizenga. Si je voudrais être un peu plus direct, je dirais que c'est le meilleur disciple du patriarche Antoine Gizenga. C'est lui qui a succédé au patriarche quand celui-ci quitta la primature. Ça veut dire que le patriarche lui reconnaît un certain nombre de valeurs, lui reconnaît effectivement la capacité de l'incarner, de lui succéder. Mais il s'est fait qu'il y a certains membres du bureau politique...
Il y a un auditeur qui a dit, bon, on a écarté ceux qui ont mangé avec la majorité.
Non, je dirais pas que Jean-Pierre Bemba n'a pas mangé avec la majorité. Je pense qu'il a été un peu trop réducteur. C'est pas question de manger. On a travaillé avec eux et chacun a son bilan à défendre. Donc, Adolphe Mouzitou est de ceux que la base voudrait voir succéder au patriarche. Mais il s'est fait que le bureau politique du Palou est coloré FCC. Et d'ailleurs, parmi les membres du bureau politique, il y a un d'entre eux qui est ministre, qui a soutenu Chadari pendant que Gizenga a été candidat. Il n'est pas exclu jusqu'à aujourd'hui, il est toujours membre du bureau politique. Donc le Palou est dans une hypocrisie de sucre que les patriarches ont critiqué en disant qu'il faut plus la
mais
sincérité.
Mais c'est curieux, mais un des membres aussi de Palou a été dont les dossiers ont été déclarés irrécevables.
Ouais, ça veut dire
et les ministres.
Ça veut dire voilà, que malgré qu'ils se font vassaux du pouvoir en place, qu'ils se font vassaux du FCC, on le bouffe déjà maintenant et nous disons que ça sera comme ça même après. Ils n'auront
bon,
pas
ils ont encore de voie de recours, ils vont aller à la Cour constitutionnelle.
Mais non, mais pour la question de nationalité, il n'y a pas de voie de recours. On est congolais ou on ne l'est pas. D'ailleurs, en principe, on devait aller plus loin pour qu'il perde son poste au niveau de gouvernement.
Voilà, c'est un débat qu'on fera soit mercredi ou jeudi sur la nationalité. Comme ça, on va parler des moratoires au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore faire débat? On ne sait pas. Alors, Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, Alain Bolodjoa, en Bandaka. On va terminer avec vous et puis on va conclure avec notre invité. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, JR, également à notre invité. Depuis ma part, JR, je vous dis tout simplement qu'il n'y aura pas élection le 23 décembre 2018. Pourquoi? Parce que quand nous voyons le comportement aujourd'hui sur le plan politique de la majorité ou du régime en place, si nous voyons de la manière dont la CENI est en train de se comporter, qui a même perdu de l'indépendance, Quand on dénonce des choses, on dit non, non, procès d'intention. Quand on dit non, non, on vous voit dans des réunions notamment, on dit procès d'intention. Mais j'ai Alain Atondu qui est le porte-parole de la majorité, a anticipé l'événement. Il avait dit, avant même que Jean-Pierre Bemba ne dépose ses dossiers et à la CENI pour sa candidature, il avait dit qu'il serait invalidé. Et aujourd'hui, voilà la chose qui vient de se produire. Visiblement, tout le monde voit, tout le monde comprend que c'est clairement une chose qui est organisée. Est-ce que Nanga peut nous donner une disposition conditionnelle aujourd'hui qui lui donne des prérogatives de remplacer la Cour suprême de justice ou de remplacer la Cour constitutionnelle? Non, lui devait se limiter tout simplement au niveau des dossiers. Est-ce que les dossiers sont complets? Les dossiers ne sont pas complets, même si ce n'est pas, les dossiers d'un candidat ne sont pas complets. Il renvoie ça directement à la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle. C'est là où on va interpréter la loi, pas à son niveau.
Merci beaucoup, Pacifique. Merci. Alors, Alain Bolodjoa, vous avez la parole.
Pour moi, je crois que nous devons dépassionner les débats. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'invité. J'estime de mon point de vue que la CENI n'a fait que son travail, bien qu'il peut y avoir des écueils. Nous devons reconnaître que la CENI était appelée, n'est-ce pas, à publier la liste provisoire. Hein, il faut reconnaître que peut-être M. Mouzoutou est victime d'une sorte de cabale, mais ce qui est vrai, les autres devraient en principe être sanctionnés. Moi, je n'ai pas compris, j'ai lu les 10 conditions pour qu'un dossier soit rejeté non recevable, et je ne vois pas ce que Mouzoutou a pu faire qui soit en mesure de justifier pourquoi
la décision de la CENI.
Mais en ce qui concerne les autres, nous devons laisser à la Cour la latitude d'apprécier. Même M. Mouzoutou doit introduire son recours et je suis sûr qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on va trouver non fondées les raisons
de la CENI
élevées par la CENI. Mais en ce qui concerne la question de la nationalité.
Nous avons dit que nous allons y revenir, nous allons y revenir mercredi, Alain, et on ne manquera pas de vous associer à ces débats. Merci beaucoup, Alain. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, Steve Kivuata, porte-parole d'Adolphe Mouzoutou?
Non, ce qu'on peut retenir est que sur le plan de droit, nous allons introduire un recours le plus tôt. Et je pense que la faute...
Vous avez, comme tous les autres candidats invalidés, jusqu'à mardi, donc demain.
Effectivement. Nous allons introduire notre recours et nous estimons que la Cour constitutionnelle pourrait recadrer le faute grave qui a été commise par la CENI et que par ailleurs, que les acteurs politiques et même le peuple congolais et la communauté internationale puissent doubler de vigilance pour qu'on ne rate pas cette occasion d'avoir des élections réellement crédibles, transparentes, apaisées, qui pourraient effectivement nous amener à résoudre d'autres questions, les vraies questions du pays, les questions sociales, les questions de développement, les questions d'économie. Aujourd'hui, nous avons les enseignants qui souffrent. Aujourd'hui, nous avons les fonctionnaires qui sont mal payés. Nous avons un pays à construire, il n'y a pas de route. Nous avons besoin d'avoir suffisamment d'électricité et de l'eau. Nos débats ne doivent pas se limiter sur des combats entre politiciens, de coups bas. Nous devons nous préparer pour avoir la meilleure offre politique possible à proposer au peuple congolais. Et n'ont pas cherché à être élus parce que les autres ont été écartés, parce que les autres, les meilleurs d'entre nous ont été écartés. On doit chercher à être le meilleur président de la République et non pas être le faible président de la République qui passe avec quelques voix volées à travers le fichier électoral. C'est ça la grande question, la question de la crédibilité des élections. Nous ne voudrons pas que plus d'un milliard de dollars soit jeté dans l'eau pour que par après décembre 2018, qu'on puisse encore parler de dialogue. À cet dialogue, nous avons besoin des institutions légitimes qui puissent être capables de résoudre le problème des Congolais. Nous nous engageons à ça et Adolphe Mouzoutou a une offre politique à présenter au peuple congolais. Nous ne voudrions pas qu'on l'écarte par des questions fallacieuses. Aujourd'hui, il a rempli tous les critères possibles. La Cour constitutionnelle doit le réhabiliter.
Steve Kivuata, porte-parole d'Adolphe Mouzoutou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir également contribué dans cet échange citoyen. Nous allons continuer dans une série des émissions autour de cette question. Donc demain, on reviendra sur la représentativité des femmes sur toutes les listes publiées, qu'il s'agisse des élections provinciales, législatives, nationales, et encore la présidentielle. La présidentielle, d'ailleurs, il y a une unique femme, et les 12% des femmes pour la députation provinciale. provinciale et 12% pour la députation nationale. Les débats est lancé que comment se représenteront les institutions de la République prochaine. Donc merci beaucoup. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebujangwe. Pierrot et Lamé, j'ai eu le plaisir de la réaliser. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.net et en rediffusion tout à l'heure donc dans l'histoire.